Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire et plus, par Karina et Sylvie. Bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
Et Oscar qui est notre stagiaire journaliste sur ce mois. Bonjour Oscar.
Bonjour Sylvie, bonjour Karina. Bonjour.
Et la régie est assurée par Tim, qui est notre stagiaire en technique son. Bonjour Tim.
Bonjour Sylvie.
Alors, au sommaire de cette locale du jeudi 15 avril, Karina.
Au sommaire, donc ces locales sont un peu plus légères en ce moment. On a deux invités parce qu'il se passe un peu moins de choses. C'est représentatif. On va parler d'abord avec Marie David, qui est chargée de communication pour les châteaux de la Drôme, pour des visites en images et live des trois châteaux du département. Et ensuite, nous discuterons avec Anna Gasquet d'Europe Direct Drôme-Ardèche pour parler d'une formation Europe et mobilité. Et comme d'habitude, des infos et des brèves locales.
Alors, on démarre effectivement par Marie David, responsable du service communication et relations publiques des Châteaux de la Drôme. Bonjour Marie.
Bonjour Sylvie.
Alors, comment se passe la vie d'abord en ce moment dans les trois châteaux dont le département est propriétaire, à savoir Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse?
Alors écoutez, la vie dans les châteaux de la Drôme actuellement, elle est, je pense, similaire à la vie dans tous les lieux culturels, les lieux publics, les lieux touristiques, etc. C'est-à-dire qu'on attend avec une grande impatience de pouvoir faire notre mission principale qui est d'accueillir le public.
Et oui, bien sûr.
Donc, et oui, malheureusement, nous sommes fermés, bien sûr, mais nous attendons vraiment, nous sommes prêts, nous sommes sur les starting blocks pour pouvoir réouvrir ces joyaux du patrimoine drômois.
Alors, je le disais, c'est effectivement, ces trois châteaux sont propriétés du département. Quelle est la particularité des châteaux propriétés publiques?
Alors, ces châteaux sont effectivement dans le giron du département depuis de nombreuses années. À ce titre, ils font l'objet donc de grands projets de développement pour être ouverts au plus grand public. Mmh. Ils sont donc ouverts en temps normal, hein, bien sûr, toute l'année. Ce sont des lieux véritablement à la fois de préservation du patrimoine, mais aussi d'animation culturelle, puisque bien sûr nous sommes ouverts pour faire découvrir au public le patrimoine et l'histoire de ces lieux vraiment importants dans la Drôme, mais également pour y proposer des aventures culturelles telles que la plus emblématique sans doute, les fêtes nocturnes au château de Grignan. Mmh.
Alors, on va dire qu'on a l'écriture à Grignan, on a l'art contemporain à Montélimar. Et à Suze-la-Rousse, est-ce qu'il y a une particularité, est-ce qu'il y a une spécificité?
Oui, alors à Grignan, je vais dire que plus largement, il y a effectivement la question de l'écriture, mais globalement, la question de toutes les formes artistiques,
oui.
Puisque les fêtes nocturnes sont un festival de théâtre.
Bien sûr.
Donc c'est plutôt les arts, on va dire, les arts qui sont vraiment à l'honneur au château de Grignan. Le château de Montélimar, du coup, c'est l'occasion aussi de discuter un petit peu avec vous pour vous présenter un petit peu les évolutions du projet, puisque il a été, donc, château de Montélimar, un centre d'art pendant un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, le château n'accueille plus d'expositions temporaires. Aujourd'hui, le château est en pleine réorientation pour accueillir des dispositifs ludiques à destination plutôt des familles et des enfants.
D'accord.
Il est en train vraiment de devenir, on va dire, le château des enfants avec des dispositifs ludiques pour découvrir l'histoire de ce château, notamment avec sa période phare qui est le Moyen-Âge. Et la grande particularité de ce nouveau projet, qui a vraiment, si vous voulez, qui a émergé depuis 2016, mais qui commence véritablement à être visible côté public depuis l'an dernier, la particularité, c'est que ce sont des enfants de Montélimar qui sont associés à la création du parcours de visite.
Génial.
Ouais, ça, c'est super. Ah, effectivement,
donc c'est vraiment un processus, on va dire, de participatif, immersif, innovant. Chaque année, on réunit un groupe d'enfants de Montélimar avec des professionnels de l'enfance, des professionnels du numérique, des professionnels de la médiation culturelle. Et tout ce petit monde se réunit, réfléchit ensemble et imagine un parcours de visite qui ensuite va être réalisé et ouvert au public.
Alors, ouvert au public dès qu'on va le pouvoir.
Bien sûr.
On y revient. Et alors, vous nous proposez, ben, justement, en ces temps de confinement, vous nous proposez une très belle expérience en partenariat avec Sceaux Château, puisqu'il s'agit de nous plonger au cœur de la vie de ces trois châteaux au travers de trois émissions insolites qui sont entre le reportage historique et l'interview en live. Alors, ça sera de lundi prochain à jeudi, un rendez-vous quotidien chaque soir à 19h. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps de visite?
Alors, c'est une idée, bien sûr, hein, qui est née pendant toute cette période de confinement et de fermeture des sites que l'on connaît depuis l'an dernier. Et c'est vrai que, comme beaucoup de lieux culturels, on a tout de suite, rapidement, décidé de rester en lien avec notre communauté par le biais d'actions numériques, puisque, bien sûr, ne pouvant rien organiser en présentiel, les réseaux sociaux, le site Internet sont des moyens, quand même, de continuer à transmettre des contenus et à rester en lien avec notre communauté qui est quand même fournie et qui est demandeuse d'interaction. Donc, ce projet d'émission en live s'inscrit vraiment pleinement dans cette dynamique qui a été portée par beaucoup de lieux culturels. Et donc, la particularité de ces trois soirées, donc la semaine prochaine, c'est que nous allons donner rendez-vous donc, au plus grand nombre chaque soir à 19h par le biais d'une plateforme Internet qui est très facile d'utilisation. Donc, le feu vert, le go est donné à 19h. Rendez-vous avec tout le monde. Donc, on va accueillir les gens qui seront donc présents, qui pourront écrire un petit mot par le biais d'un chat pour nous dire « on est bien là, on est bien connecté, on attend avec impatience de découvrir l'émission ». On va, donc une fois que tous les gens seront connectés à 19h, nous allons diffuser une visite guidée de chaque monument. Donc, lundi, ce sera Grignan, mardi, Montélimar et mercredi, Suze-Larousse. Donc, on emmène les gens vers une visite guidée avec un guide conférencier pendant environ 30 minutes. Donc là, hein, on est vraiment comme si on était au château. On déambule de salle en salle pour découvrir les éléments clés de l'histoire de chaque monument. Donc pendant une trentaine de minutes. Et puis, à l'issue de cette visite guidée, le public va pouvoir, en direct, en live, poser ses questions à nos équipes sur place, dans chaque château.
D'accord, donc c'est vraiment l'interaction, l'interaction totale.
Complètement. C'est-à-dire visite, découverte des lieux, découverte des salles, découverte des points clés d'histoire, et puis au bout de 30 minutes, échange interactif avec questions-réponses. Donc il y a un animateur hein, qui est donc Olivier de Sceaux Château, qui fait le modérateur. Donc il va, les questions seront posées via le chat par écrit, par la communauté. Olivier va sélectionner les questions qui lui semblent les plus récurrentes ou les plus intéressantes ou les plus intéressantes, oui. Et il va poser la question à nos équipes sur place qui vont répondre en direct aux gens qui seront connectés à l'émission.
Et alors, c'est bien sûr ouvert à tout le monde, au plus grand nombre, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, la visite est tout à fait possible, elle est suivable par tout le monde.
Oui, complètement. Après, c'est une visite plutôt historique. Hein.
On est d'accord.
C'est pas une visite qui est assez jeune public, en tout cas. Hein. C'est pas un dispositif qui est fléché sur le jeune public, mais on va dire qu'il est vraiment pour tout public.
Et alors, comment fait-on pour s'inscrire ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut se connecter comme ça ? On arrive quand on veut, où on veut ?
Non, alors il y a quand même une inscription préalable qui peut être faite quelques heures avant ou dès maintenant si les gens le souhaitent. Donc les formulaires d'inscription sont déjà disponibles. Il suffit pour ça d'aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. On a mis les liens sur l'ensemble de nos supports de communication numérique. Sur le site internet, c'est sur la page d'accueil. Sur les réseaux sociaux, c'est dans notre dernier poste. Et il y a également un événement qui a été créé sur chaque page de chaque château, puisque au niveau des réseaux sociaux, on a une page par château, château de Suse, château de Montélimar, château de Grignan. Et donc, il suffit de suivre le lien que nous avons donc indiqué sur l'ensemble de ces supports de communication. Et là, tout est expliqué. Il suffit de renseigner un nom, un prénom, une adresse email. Vous validez et vous recevez le lien de connexion immédiatement.
Alors, ça sera donc pour ces 19, je rappelle, lundi, ça sera à Grignan, mardi à Montélimar et mercredi à Suse-la-Rousse. Ça, c'est pour cette période particulière. Est-ce qu'on peut espérer qu'il se passera des choses cet été dans les châteaux ? Alors, vous n'êtes pas Madame Irma, personne ne l'est, mais si, en tous les cas, les choses se lèvent, est-ce qu'on pourra, on va pouvoir avoir quand même des spectacles ou est-ce que tout a été d'ores et déjà annulé et reporté ?
Alors non, en effet, nous, on est très optimistes sur le fait que nous allons pouvoir proposer au public des animations cet été. Ça nous paraît relativement évident. Bien sûr, je ne suis pas Madame Irma, c'est-à-dire qu'il faudra que tout ça soit conforme aux mesures sanitaires qui seront promulguées d'ici là. Donc bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs aux questions de sécurité, de santé publique de nos visiteurs. Donc ça sera la priorité absolue comme ça l'a été depuis un an. Mais néanmoins, dans le cadre de ces restrictions sanitaires, nous espérons pouvoir à minima proposer donc la visite de nos lieux et vraisemblablement des activités également culturelles et événementielles. Donc selon toute vraisemblance, on pourrait imaginer que les fêtes nocturnes, donc le spectacle de théâtre, puissent se tenir avec une jauge réduite, le port du masque, la désinfection, etc. Mais en tout cas, oui, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas aujourd'hui en apporter l'assurance, mais néanmoins, on travaille dans ce sens.
D'accord, oui, tout est prévu pour que ça puisse se dérouler. Alors, ce sera, on peut avoir un petit aperçu sur les fêtes nocturnes qui... quel spectacle qui serait, bien sûr,
c'est le spectacle en fait qui a été annulé l'année dernière et reporté à cet été. Donc c'est une adaptation du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier par un metteur en scène qui s'appelle Jean-Christophe Humbert et qui est connu pour être le directeur artistique de la série Kaamelott avec Alexandre Astier.
Donc un spectacle de cap et d'épée.
Complètement, voilà, un spectacle vraiment dans l'esprit un petit peu Kaamelott, alors version théâtrale, on n'est pas au cinéma, on est au théâtre, mais on retrouvera un petit peu cet esprit un peu fougueux et un peu épique en effet de Kaamelott, avec ce personnage du capitaine Fracasse qui va quitter son château en ruine pour suivre une équipe de comédiens et vivre une nouvelle vie pleine d'aventures.
Un roman d'ailleurs, c'est bien de le remettre au goût du jour parce que je pense que les jeunes aujourd'hui peuvent être tout à fait intéressés par cette chouette aventure. Merci beaucoup Marie. On espère vraiment que tout ça va pouvoir effectivement réouvrir. D'ici là, vous pouvez visiter donc les châteaux lundi, mardi et mercredi via la plateforme. Allez sur le site internet de chaque château, comme ça vous trouverez tous les éléments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mais de rien, c'était un plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Alors, quelques informations locales. Donc, locales, bon, un petit peu loin, mais finalement, ça nous concerne aussi. Vous allez voir pourquoi. Drôme Sud, des kits pro-nucléaires se trouvent depuis peu dans plusieurs mairies de la communauté de communes Drôme Sud qui tentent de mobiliser les habitants pour qu'ils soutiennent l'installation de 2 EPR, qui sont des réacteurs nucléaires nouvelle génération, sur le site nucléaire du Tricastin. Le but de cette mobilisation, c'est de montrer à l'État et à EDF que la population soutient le projet et qu'il n'y aura pas d'opposition majeure pour que cette zone-là soit choisie par ces deux acteurs qui hésitent encore entre Tricastin et Bugé dans l'Ain. Donc la motivation de la communauté de communes serait les emplois créés par ce nouveau projet. Et selon France Bleu, qui s'est rendu à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les habitants vont donc trouver dans chaque mairie une urne dans laquelle ils pourront glisser un bulletin à remplir avec leur nom et leur commune. Un bulletin sur lequel on peut lire « Oui à l'EPR de Tricastin ». Il y aura aussi une page Facebook et une adresse mail permettant également de soutenir le projet. Le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, interrogé par France Bleu, lui s'y oppose. « Je ne veux pas que le Sud-Drôme devienne la Lorraine du nucléaire », a-t-il dit. Voilà, donc les décisions vont quand même nous concerner et seront prises prochainement. Pour ce qui est du gel, par contre, donc le gel a impacté très violemment de nombreuses productions dans notre département, en particulier durant la nuit du 7 au 8 avril. Et sachez que les maires sont invités à signaler les dégâts à la DDT pour faciliter la reconnaissance au titre des calamités agricoles. Donc si vous avez été impacté, rapprochez-vous de votre mairie en indiquant bien là où les dates de gel, les espèces sinistrées avec la nature et le taux des pertes. Quand ces précisions sont possibles, la mairie enverra les informations à ddt-calam@drome.gouv.fr et suivront ensuite des enquêtes de terrain en mai pour constater les pertes. Une enquête en ligne auprès des producteurs durant l'été et à l'automne pour savoir le taux de perte effectif. Et une fois que l'arrêté de calamité agricole sera reconnu sur un ensemble de communes et d'espèces, les dossiers pourront être envoyés à la DDT et les mairies seront informées de l'ouverture de la procédure.
Et maintenant, on retrouve Anna Gasquet d'Europe Direct Drôme-Ardèche. Bonjour Anna.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Anna, elle est un peu chez elle.
Hein, à la maison.
C'est vrai.
Puisque tu es co-productrice et animatrice avec Ardiana Tosca de l'Europe du côté de chez nous, qu'on retrouve les 3e et 4e lundi du mois à 19h et 3e et 4e dimanche du mois à 10h, émission mensuelle. On te retrouve aussi avec Karina et Eulalie autour de Top Départ, une nouvelle émission. Mais peut-être que Karina, d'ailleurs, je te laisse en redire deux mots.
Oui, alors c'est une émission donc, qui a pour but de parler aux jeunes et de leur donner envie de partir à l'étranger en expliquant un peu. Donc il y a une émission par destination, en expliquant un peu les structures qui peuvent les aider à partir et comment se préparer, et en racontant un peu aussi des exemples avec des jeunes qui seront au studio de la vie sur place. Donc voilà, là, dans 3 semaines, la prochaine sera sur l'Europe de l'Est et centrale. Ce sera rendez-vous jeudi à 19h, le 6 mai, si je ne me trompe pas.
Ah bien, et la première ayant porté sur l'Allemagne. Alors effectivement, alors toi tu fais partie, Anna, de cette émission, mais c'est surtout par Europe Direct. Alors on peut peut-être représenter rapidement Europe Direct Drôme-Ardèche.
Oui, bien sûr. Alors Europe Direct, c'est un centre ressources sur l'Europe. On fait partie d'un réseau labellisé par la Commission européenne. Il y a un réseau de 500 centres en Europe, et puis on est une cinquantaine en France. Et notre rôle étant de pouvoir être une porte d'entrée sur l'Europe pour les habitants, pour les citoyens, pour les porteurs de projets, pour les aider à trouver, à s'orienter vers des financements européens, pour trouver des programmes pour, par exemple, la mobilité des jeunes, comme on en parlait à l'instant, ou encore des partenariats pour monter des projets Erasmus ou dans le domaine de la culture ou dans le domaine de l'éducation, du transport, voilà. Tout ce qui peut toucher aux questions européennes. Donc notre rôle, c'est d'être là, d'informer et de répondre aux questions des habitants et puis aussi d'aller à la rencontre des différents publics dans les établissements scolaires, dans des forums sur des activités en ligne ou à la radio, comme tu viens de le décrire.
Alors là, on te trouve au téléphone pour parler d'une formation, oui. Europe et mobilité. Alors c'est une formation qui là va se dérouler en Ardèche, mais c'est une formation qui a déjà eu lieu, je crois, dans la Drôme. Il y a eu en tous les cas des premières formations dans la Drôme, il me semble.
Alors, il y a déjà eu plusieurs formations. La plupart, pour l'instant, ont eu lieu en Ardèche, à Aubenas, à Privas, à Guérangrange. Bon, c'est juste à côté.
Voilà,
et puis, on va continuer par...
Annonay,
à nouveau, Annonay, Le Teil. Et puis, en effet, à la fin de l'année, on aura des sessions en côté de Rome.
D'accord.
Ça, c'est en préparation.
Alors, ce sont des formations Europe et mobilité. Alors, de quoi il s'agit ?
Alors, c'est à destination tout d'abord des professionnels de la jeunesse et d'accord. des enseignants. Mmh. C'est donc des ateliers gratuits qui sont proposés à ces personnes qui souhaitent parler de citoyenneté européenne et de mobilité des jeunes à leur public, aux élèves, aux jeunes des MJC, aux jeunes des centres sociaux, des points d'information jeunesse, et qui ont besoin d'outils, disons, pédago-ludiques pour en parler avec leur public. Donc, c'est l'occasion, en fait, de proposer à ces professionnels de se former, de monter en compétences et de acquérir aussi des outils. Alors, on a préparé une mallette pédagogique, vraiment physique, une mallette avec différents jeux, différents expositions, flyers, brochures, qui pourront que ces personnes, ces professionnels et ces enseignants pourront après ramener avec eux dans leur quotidien et l'essayer au travail avec les jeunes. Et puis, ces formations, c'est aussi un temps autour des possibles outils financiers pour monter des projets. Alors, il y a Erasmus, que beaucoup de professionnels connaissent déjà, Erasmus+, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, par exemple de l'Office franco-allemand de la jeunesse, le Corps européen de solidarité, ou encore le programme sur la citoyenneté, l'Europe des citoyens. Donc, c'est voilà un atelier de formation qui est divisé entre deux temps, un plutôt sur les outils financiers et un autre sur les outils pédagogiques, pour pouvoir parler d'Europe, de citoyenneté et de mobilité des jeunes.
D'accord. Et donc, c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde, aux professionnels, voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas de prérequis particulier pour ces professionnels.
Non, voilà, il n'y a pas de prérequis. C'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui souhaitent aborder ces questions-là de citoyenneté européenne, de mobilité des jeunes avec le public, peuvent venir s'inscrire. On a bien sûr une limite de nombre de personnes à cause des restrictions sanitaires par atelier. Mais sinon, il n'y a aucune limitation. Voilà, c'est ouvert à tout le monde.
Oui, parce que ces formations sont en présentiel.
Voilà, exactement. On a souhaité les maintenir. Depuis le mois de décembre, on maintient ces ateliers en présentiel parce que c'est l'occasion, d'une part, on prend en main des outils pédagogiques, donc de les découvrir, de les utiliser avec nous lors de cette session de formation, cet atelier. Et puis aussi, c'est dans l'idée que différents acteurs du territoire, structures, enseignants, se retrouvent et aussi se rendent compte des fois des ponts possibles entre leur structure, entre leur public et puissent collaborer sur nos territoires. Donc, c'est aussi l'occasion d'une mise en réseau et ça ne peut se faire que par la présence.
Bien sûr.
Donc, on a fait ce choix, en effet, de continuer ça en présentiel avec une limitation de nombre de personnes. On le fait dans le respect, bien sûr, des normes sanitaires et les personnes qui ont assisté jusqu'à présent étaient justement ravies que pour une fois, on puisse faire quelque chose de nouveau en présence et pas que en ligne. Voilà.
Oui, ça manque terriblement.
Oui.
Et c'est vrai qu'on c'est quand même plus effectif, plus efficient quand on est en physique. Alors les dates, il y a trois dates au choix sur trois lieux.
Voilà. Il y a trois dates à venir en effet encore. Donc le 28 avril, le mercredi 28 avril après-midi à Annonay. Le mardi 18 mai, après-midi toujours, ce sera à Privas. Et le jeudi 17 juin, ce sera au Teil.
C'est une formation gratuite. Hein, ce sont des formations
gratuites. C'est une formation gratuite. Voilà. Et il faut s'inscrire, par contre. Donc, vous trouverez toutes les informations sur notre site web Maison des Européens Lyon ou Europe Direct Rome Ardèche pour Facebook. Ces ateliers sont aussi co-organisés, je tiens à le souligner aussi, avec le réseau Information Jeunesse, le Centre Régional d'Information Jeunesse de Auvergne-Rhône-Alpes, et les deux centres Europe Direct, Rome Ardèche et Lyon.
Et on peut peut-être dire deux mots du projet Agir, Ardèche Jeunesse oui. Innovation Rurale.
Exactement. C'est dans ce cadre-là donc, que le projet a pu naître et notamment que cette matière pédagogique a pu être produite. Agir, c'est un programme pour Ardèche Jeunesse Innovation Rurale, en effet, qui donc a lieu sur le territoire ardéchois. C'est un projet qui est soutenu par l'Agence nationale de la rénovation urbaine et aussi le département de l'Ardèche en ce qui nous concerne. Et donc, c'est une action, c'est une série d'actions très transversales touchant la jeunesse, autant jeunesse et entrepreneuriat ou jeunesse et démocratie, vie citoyenne, jeunesse et mobilité des jeunes. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on a pu produire des outils pédagogique et on organise avec ce soutien les ateliers. Donc, ils sont gratuits pour cette raison.
D'accord. Et est-ce qu'il existe le même type de projet un peu transversal comme ça et je pense notamment sur le milieu rural, dans la Drôme ?
Non, en effet, ce type de projet Ardèche Jeunesse Innovation Rurale, c'est un des plans initiative, comment c'est l'innovation au niveau français, c'est un des seuls qui a lieu sur un territoire rural. C'est justement, comme je le disais, financé par l'Agence nationale de rénovation urbaine et il y a eu un appel à projet, je crois, en 2015, 2016 et c'est l'Ardèche, le seul territoire rural qui a retenu ce plan d'investissement de l'ANRU. Et donc, il n'y a pas l'équivalent sur la Drôme. Il y a, différents acteurs institutionnels. Par exemple, bien sûr, la direction départementale de la cohésion sociale au niveau de la Drôme et la CAF soutiennent un certain nombre d'actions sur l'information jeunesse. Mais comme ça, de manière coordonnée au niveau de tous les acteurs jeunesse d'un territoire comme il y a en Ardèche, il n'y a pas l'équivalent en Drôme.
Ah, bon, ben voilà, peut-être une idée à reprendre.
Tout à fait.
Pour celles et ceux qui nous écoutent. Ben, merci. Karina, peut-être tu as...
Non, ben, je me demandais juste s'il y avait d'autres événements sinon à partager, Anna, maintenant qu'on est avec toi au téléphone au niveau d'Europe Direct Drôme-Ardèche.
Alors oui, il y a d'autres événements qui sont pour l'instant pas encore complètement calés, mais on va pendant le mois de mai, avec le mois de mai arrive la fête de l'Europe, le 9 mai, et puis du coup pendant le mois de mai, on déploie chaque année un certain nombre de propositions d'actions, et là on aura des balades européennes commentées qu'on va proposer à des groupes d'élèves, des établissements intéressés, donc... Je lance l'appel aux enseignants, aux établissements qui pourraient nous écouter. Si vous êtes intéressés, on va proposer à des groupes d'étudiants, à des groupes de jeunes, à des groupes de lycéens, des balades européennes commentées dans le centre du ville de Valence, pour commencer. Avec donc du coup, l'idée, c'est de redécouvrir sa commune, son quartier, et voir comment l'Europe est présente dans notre quotidien. Au détour d'une pharmacie, d'une boutique, d'une banque, dans le parc de la ville et ainsi de suite. Donc, on n'a pas de date calée, on a un certain nombre de possibilités et les enseignants intéressés peuvent nous contacter. On organisera ça avec leur aide.
Super.
Super. Bon, on ira suivre une balade, parce que c'est vrai que c'est une belle idée. Merci beaucoup, Anna.
Merci à vous.
Et puis bonne continuation, à très vite.
Merci, à vous aussi, bonne journée.
À bientôt. Les infos locales continuent. Sachez tout d'abord que, pêcheurs, vous avez le droit de dépasser les 10 km. La Fédération nationale de la pêche en France vient d'obtenir de l'État une dérogation de déplacement pour la pêche de loisirs. Donc vous avez le droit de pêcher jusqu'à 30 km autour de votre domicile. Le créneau horaire à respecter, c'est quand même avant 19h, donc de 6h à 19h. Et vous devez vous munir d'un justificatif de domicile, de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la fameuse case numéro 7, activité physique de plein air, et vous munir de votre carte de pêche. Sinon, cyclistes, sachez que, selon le Dauphiné, 3 bornes de réparation de vélos en libre-service de la ville de Valence ont été dégradées. C'était les 3 seules bornes qu'il y avait à Valence. Elles se situent à la Tour Maubourg, à côté de la Fontaine Monumentale aussi, et au Champ de Mars. Quelqu'un a enlevé les embouts des pompes. Donc, pour regonfler vos pneus, malheureusement, vous pouvez utiliser vos pompes personnelles ou alors à utiliser les gonfleurs des stations-service. Selon le Dauphiné encore, à qui la Chambre économique de Valence, la jeune Chambre économique de Valence, pardon, à l'initiative des bornes, a annoncé prévoir de s'intéresser au problème. Voilà, donc ça, on verra la suite des événements. Et pour finir, des infos locales dans la catégorie « Heureusement que certaines personnes nous font rire avec leur brin de folie », sachez qu'à Portes-les-Valences, un commerçant de prêt-à-porter fermé à cause des restrictions sanitaires a écrit en grandes lettres sur sa vitrine « Mesdames, messieurs, s'habiller n'est pas essentiel, sortez donc nu dans la rue ». Une information qui plairait à l'association naturiste que nous avons reçue hier.
La bonne nouvelle, c'est officiel depuis le 24 mars, la Virginie est devenue le premier état de l'ancien Sud ségrégationniste à abolir la peine de mort. Ralph Northam, le gouverneur démocrate, a annoncé qu'il n'y avait pas de place pour la peine capitale dans cet État, dans le Sud, ainsi que dans le reste du pays. On ne peut pas infliger cette punition ultime sans être sûr à 100% que l'on a raison, et on ne peut pas infliger à quelqu'un cette punition ultime en sachant que le système ne marche pas de la même manière pour tout le monde. La Virginie a passé sombre en ce qui concerne la peine de mort. L'État possède le record d'exécution sur ce sol américain, et sur les 377 prisonniers exécutés au XXe siècle, 296 étaient afro-américains. La Virginie rejoint donc les 22 autres États américains où la peine de mort a déjà été abolie.
Effectivement, une bien belle et bonne nouvelle. On arrive à la fin de cette locale, des locales un petit peu, voilà, un petit peu écourtées, un petit peu raccourcies en ce moment, faute de combattants, on va dire, combattantes. Mais on se retrouve mardi pour la prochaine locale. Et par contre, demain, tendez l'oreille à 12h15, puisque Oscar, tu vas nous faire une proposition, une grande première.
Oui, c'est une émission qui portera sur le football, qui s'appellera l'après-match. Et on parlera football, Ligue des Champions, il y aura un petit débat.
Super. Donc rendez-vous à 12h15 demain pour découvrir le premier épisode, je vais y arriver, de, comment tu l'as appelé ?
L'après-match.
L'après-match, très bien. Eh bien, voilà, portez-vous bien d'ici là. En tous les cas, nous, on se retrouve mardi. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.